Alors, je suis arrivé ici, je connais quelques personnes, mais je ne savais pas très bien exactement comment ça allait se dérouler. Alors, j'ai plutôt orienté, j'ai travaillé sur des questions à la psy, mais je me suis aperçu que ce livre, effectivement, que j'ai sorti, qui est sorti l'année dernière, alors, Autopsie, les vies d'un psychiatre, qui a été présenté à l'Honoré Colbert en avril 2018. Je vais préciser que le titre, c'est pas ce que lui que j'avais choisi, m'a été imposé par l'éditeur. Ce que j'avais écrit aussi, on m'a demandé de supprimer un certain nombre de choses, tout ça. Il y a eu des compromis. Bon, il y avait des parties un peu personnelles que j'ai souhaité quand même maintenir. Donc, il y a eu un échange, un troc, et finalement, c'est passé comme ça, avec une photo comme ça aussi en couverture. C'est pas du tout ce que j'avais souhaité ni prévu. Mais voilà, son choix d'édition, mais dans l'édition. Alors c'est vrai que ce sont des fragments de vie, d'un parcours de vie professionnel, à partir d'une naissance enfant d'une famille bretonne paysanne. La chance, enfin, du fait de la migration, d'arriver au Havre, dans la ville du Havre, et d'être orienté vers des études au-delà du primaire, puis du secondaire, enfin, donc l'université à Rouen, la fac de médecine, l'internat à Paris, puis le retour à Rouen. Le retour à Rouen en faisant le choix de la psychiatrie publique. En ayant été engagé dans la psychanalyse pas mal de temps, continuant à tenir compte de ces questions, même si un certain nombre de réponses peuvent être discutées. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le livre qui a été amené là, par Yolande, que je défends pas votre nom, Govindana, a été tout à fait corné en de nombreuses pages. Donc, je m'attends après à des questions peut-être redoutables. Voilà, donc. Pas trop envie de m'étendre sur ce parcours de vie, je veux dire, le fait de dire élevé dans la langue bretonne, sorti, tout ça, bon, mes intérêts, mes passions diverses, mes engagements aussi, bon, qui maintenant j'ai cessé des activités professionnelles de psychiatrie publique à Rouen là, depuis 5 ans. J'ai quelques responsabilités associatives. Et je continue évidemment à m'intéresser à ce qui se passe en psychiatrie et autour, les questions posées à la psy. La psy, la question de la psy, la psychiatrie, psychanalyse, psychothérapie, psychologie, tout ça sont des domaines qui sont complémentaires mais un peu différents. Et c'est vrai que j'avais proposé ce titre-là qui a été retenu, Question à la psy, et je le maintiens parce que c'est vrai qu'on vit dans un moment quand même de crise sociale et démocratique tout à fait important, qui est très très problématique. Moi, personnellement, ça, voilà, d'un point de vue un peu personnel, ça m'inquiète un peu. Bon, mais je vais essayer de rester la première. Moi, j'ai un point de vue engagé. Je pourrais tout à fait préciser d'où je parle, mais c'est vrai que dans cette crise sociale et démocratique, la crise de la psychiatrie est aussi importante. Il y a eu une grève à l'hôpital du Rouvray, longue. Il y a eu même une grève de la faim pour exiger des postes. Moi, j'étais tout à fait surpris de l'importance des oppositions et de la violence des mots. À qu'on arrive à une grève de la faim pour demander des postes, j'en étais très, 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 très impressionné. J'ai pas. Alors, j'ai eu des échos, je sais qu'il y a la question des moyens, il y a aussi la question de la gouvernance, comme on dit, du dialogue social, de la façon dont des responsables d'organisation peuvent mettre à mal des équipes. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait problématique. Donc, il y a une question des moyens, mais pas seulement. Alors, psychiatrie en crise, comme elle l'est, comme d'autres dimensions de la société, mais je dirais que j'aurais tendance à dire que la psychiatrie a toujours été en crise, et elle le sera sans doute toujours plus ou moins, du fait de son objet écartelé entre des impératifs contradictoires, à la fois la préservation des libertés du citoyen, des sujets, tout ça, et puis des impératifs de sécurité qui lui sont demandés par rapport à la dangerosité, la folie, tout ça, comment est-ce que ça se passe. Donc c'est c'est depuis la naissance de la psychiatrie, du monde Pinel, entre guillemets, la libération des aliénés qui étaient enchaînés à la Salpêtrière, le monde des asiles, 39-45 et l'univers concentrationnaire où on s'interroge, 30-40 000 malades mentaux qui meurent de faim dans les hôpitaux. Et puis donc, après-guerre, tout un mouvement de lutte contre l'enfermement qui aboutit à ce qu'on appelait la sectorisation, c'est-à-dire le fait d'un choix politique de proposer des soins normalement de la même qualité à une population de 80 000 habitants. Donc on découpe la France en différents secteurs et on essaye d'organiser les soins de cette façon-là. Et moi, ce qui m'étonne maintenant, parce que le recul qui est le mien avec près de plus de 45 années d'exercice en psy, psychiatrie, psychologie, psychothérapie, psychanalyse, c'est de constater que dans les années 70, il y a eu tout un mouvement qu'on appelait anti-psychiatrique, anti-asilaire, qui voulait détruire les murs de l'asile, supprimer les hôpitaux, et que maintenant on est à exiger des lits hospitaliers, parce qu'il manque de lits hospitaliers. Un renversement total du paradigme. Surprenant. Compréhensible, mais surprenant. La crise dans les années 70, surtout après 68, qui mettait en cause le statut de la folie, de l'enfermement, de l'aliénation, ce qui s'est passé en Italie avec Basaglia, tout ça, la sortie des hôpitaux. On est arrivé maintenant à exiger, à demander à des revendications de davantage de lits. Il y a eu, peut-être en 20 ans, je crois qu'on est passé à peu près de diminution de lits hospitaliers en psychiatrie de 130 000 à peu près à 50 000. Au nom, vous voyez comment ce qui est un mécanisme assez pervers, il est encore davantage en Italie maintenant, c'est-à-dire pour lutter contre la chronicité à l'hôpital, des hospitalisations longues, la stigmatisation de malades mentaux, on est allé vers la fermeture des hôpitaux, et beaucoup de malades qui étaient hospitalisés se sont retrouvés, qui auraient dû être suivis en ambulatoire, se sont retrouvés sans soins, à la rue, ce qui obéissait à des impératifs idéologiques tout à fait généreux. Vous voyez bien que ça a été pris en tenaille avec des impératifs économiques qui ont profité de ça aussi pour diminuer les budgets, mais consacrés aux soins et à la psychiatrie. Et on en est là maintenant, on est là à la croisée des chemins en France. Là-dessus, alors c'est vrai que la crise actuelle, bon, il faut en prendre la mesure. Ceux qui sont sur le terrain encore la considèrent encore aiguë, mais je dirais qu'il faut essayer de mettre ça en perspective aussi avec toute une situation économique générale en France. Je veux dire, on a une dette publique qui atteint 100% du produit intérieur brut, c'est-à-dire on transmet la dette à nos enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc les dépenses de santé sont contraintes, les budgets de santé sont contraints, et on assiste à une extension considérable des demandes faites à la psy en général. Il y a eu une transformation, on en parlera un peu après, peut-être la classification et l'appellation des maladies mentales. ce qu'on appelle trouble psychiatrique, trouble psychique, trouble anxio-dépressif, tout ça. Je veux dire, est-ce que c'est un continuum? Je veux dire, ça, c'est une différence à 180 degrés, peut-être, entre des maladies graves importantes et puis des formes de souffrance psychosociale qui sont des souffrances, mais qui ne sont pas des maladies, qui, de mon point de vue, ne sont pas des troubles psychiatriques. Ce sont des difficultés psychologiques qui méritent de l'aide, de l'attention, mais qui sont à mettre en perspective aussi, là, peut-être, j'aurai le temps d'en parler un peu, je crois, qui ont à voir avec des formes du mal-être contemporain, sur lequel il y a pas mal de personnes qui ont écrit, c'est-à-dire que comment, peut-être dans une nouvelle économie subjective, nouvelle économie psychique, avant ce qui s'exprimait sur des formes de névrose, qu'on disait les textes de Freud, névrose hystérique, obsessionnelle, tout ça, d'angoisse, se sont transformés plutôt en mode de déficit, de handicap. C'est Charles Mellemant, Jean-Pierre Lebrun qui ont écrit là-dessus, c'est-à-dire de transformer vers, entre guillemets, un monde sans gravité où l'individu contemporain est laissé à lui-même et où les solidarités familiales et sociales n'interviennent plus comme avant. Donc, les individus désarimés, désaffiliés, comme on dit, se retrouvent en difficulté et en forme d'expression de souffrance. Alors on dit souffrance psychosociale ou trouble plus important, voire des malades à la rue. Et on en parlera sur les questions de ce qui s'est initié dans les années 80, c'est-à-dire d'essayer de répondre à ça par la mise en place d'équipes mobiles, psychiatrie et précarité dans le service public. Donc c'est vrai que ce qui s'est passé à Rouen a été plutôt fondateur. Mon ami et collègue Olivier Jean est là, et lui toujours dans la mêlée, il est toujours dans cette expérience qui a été assez formidable. Et où il a fallu bousculer aussi beaucoup d'inertie administrative, hospitalière, mais c'est comme ça aussi que donc les choses avancent. Je pourrais partir sur des parcours un peu plus personnels par rapport au livre, mais j'ai un peu de pudeur à m'engager là-dessus. Je ne sais pas. Après, je vous laisse le soin de peut-être poser des questions plus là-dessus, peut-être qui peut vous intéresser plus général sur cette organisation de la psy. Alors, tout le monde sait à peu près les différences, psychiatrie, psychanalyse, psychologie, tout ça. Hein. C'est à peu près clair. La psychiatrie, c'est une spécialité de l'exercice médical au carrefour du social, du droit et d'autres, la psychanalyse, tout ça, un tas de choses. Et elle s'est fondée, c'est une discipline finalement qui n'a que deux siècles, une autonomie simplement depuis les années 70 avec la neurologie. Et donc cette extension des demandes se heurte à ce qui est considéré comme un manque de moyens soignants, des pénuries infirmières et médicales, bien que des fois il y ait des postes budgétés. Ça, c'est une question annexe, c'est-à-dire qu'il y a des postes budgétés, il n'y a pas forcément un grand intérêt pour cette discipline et ce champ. Je peux vous dire, c'est que quand même, par rapport à... Oui, alors, je suis parti voir avant ce soir, là, y compris sur Internet, que je fréquente peu. C'est vrai qu'il y a énormément d'interventions sur la crise de la psychiatrie. Il y a même des manifestations à Paris, tout ça. Moi, je suis gêné par l'angle d'appréhension. parce que je considère que c'est trop pris dans des analyses engagées, légitimes, mais qui ne prennent pas suffisamment de recul quand même par rapport à la réalité de la psychiatrie. 90% des soins qui sont assurés par la psychiatrie, moi je parle de la psychiatrie publique que je connais mieux, mais aussi la psychiatrie privée, libérale, il y a des médecins généralistes qui interviennent, il y a des psychologues, il y a tout un champ de compétences là. 90% des soins sont assurés en ambulatoire et pas à l'hôpital. C'est important à savoir. C'est-à-dire que l'hospitalisation doit être un dernier recours. 80-85% de ces soins se font ce qu'on appelle avec consentement et en hospitalisation dite service libre. C'est-à-dire qu'il n'y a entre 15 et 20% seulement de soins contraints et d'hospitalisation contrainte. On verra tout à l'heure comment c'est encadré par la loi et surveillé par des magistrats maintenant, des juges des libertés. Mais c'est une excellente chose. Il y a aussi une répartition des moyens en France qui est très problématique. Vous connaissez, on appelle les déserts médicaux maintenant, qui risquent de s'aggraver encore. Je veux dire, il y a une inégalité, moi que j'étais, je reviens encore, il y avait une inégalité de répartition qui était considérable. Par exemple, entre certains arrondissements parisiens et le département de l'Eure, par exemple, il pouvait y avoir des écarts de moyens, je parle de 1 à 20. On parle de l'arrondissement parisien, certains. Dire où le nombre de psychiatres privés, psychothérapeutes, psychanalystes. Il y a une dizaine maintenant d'écoles de psychanalyse. Dans la psychothérapie, il y a presque une centaine de mouvements de formation. Donc c'est un peu affolant des fois de se repérer là-dedans. Donc problème de moyens, mais problème de répartition. De mon point de vue, ça n'est pas normal que dans le service public, il y ait des écarts de répartition dans le service public qui sont encore maintenant de 1 à 5. C'est un point de vue que j'ai défendu autrefois et que je continue à défendre syndicalement. Je pense que le service public, un petit peu, comme pour des magistrats, des enseignants, tout ça, devrait créer les moyens d'inciter davantage, je ne sais pas s'il faut des primes, ou d'obliger à venir dans les lieux qui sont un peu désertés. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément extrêmement gratifiants, apparemment, comme on dit, mais je pense que c'est aussi l'honneur du service public d'honorer des engagements par rapport à la population. Par rapport à la population, c'est-à-dire qu'elle habite dans des quartiers du département de l'Eure ou qu'elle habite dans le 14e arrondissement à Paris, je veux dire, la population est la même. Hein. Voilà. Donc, tout ça crée des mouvements de tension dans l'hôpital et dans la société, avec des demandes de moyens tout à fait légitimes, mais qui obligent aussi à s'interroger sur l'organisation des soins. De mon point de vue, il n'est pas normal que des délais d'attente de soins en psychiatrie puissent durer des mois et des mois. Parfois même ça dépasse un an en pédopsychiatrie. Ça n'est pas le cas à Rouen. Mais c'est un problème qui n'est pas normal. Donc c'est pas simplement un propos d'estrade et théorique que j'avance. J'ai été chef de service et de pôle à l'hôpital du Rouvray et ayant entendu les plaintes des familles des patients aussi, qui étaient désespérés de ne pas recevoir de réponse. Donc, j'avais participé à la transformation d'un hôpital de jour. Un hôpital de jour, c'est un lieu de soins qui est ouvert de 9h à 17h et qui accueille des patients pendant la journée. Et participer à le transformer en un centre d'accueil et de soins psychiatriques, qui est toujours Place Saint-Hilaire. Alors la question des moyens, il est malheureusement menacé. Mais avec la nécessité d'accueillir toute demande, tout appel, toute demande de soins psy, dans les 24-48 heures. Alors, c'était une gageure, c'est une question de responsabilité aussi. Nous n'avions pas les moyens pour tenir ce lieu. J'ai engagé ma responsabilité. Il n'y avait pas de collègues qui étaient extrêmement partants pour ça. Donc, j'ai réussi avec la direction à transformer des postes qui n'étaient pas pourvus en recrutant des médecins à titre étranger. Donc, ils sont venus aider. Mais pour assurer une permanence de 9h à 20h pour répondre à ces demandes. Alors il y avait, pour faire tourner cet hôpital, il y avait un équivalent temps plein hospitalier. Ça n'était pas suffisant, il fallait se débrouiller. Mais toutes les demandes devaient être traitées, alors comme évidemment du temps manquait, c'est pour ça qu'un accueil infirmier existait en premier niveau. Des infirmiers qui étaient volontaires et qui permettaient de traiter ces demandes. Ça a été évalué, ça finit par être soutenu, mais maintenant la question des moyens fait qu'on concentre vers ce qu'on a dit des centres médico-psychologiques pivots et vers les urgences hospitalières. Ça, ce qui est un problème et une question. Ça fait partie d'une des évolutions que je regrette, même si je pense que l'évolution et la transformation de la psychiatrie sur ce demi-siècle que j'ai connu est positive, je dirais même était très positive, par la transformation des locaux hospitaliers. J'ai connu les asiles avec des salles quasiment commune, de 40 personnes hospitalisées pendant des dizaines d'années. Hein, cher Olivier. Donc, ça n'était pas normal. Et ça n'est pas normal encore. Les hôpitaux psychiatriques, on les appelait des asiles. Il y a eu le mouvement de lutte anti-asilaire qui était nécessaire. Les hôpitaux se sont transformés, les hôpitaux psychiatriques ne sont plus des lieux de vie, ce sont des lieux de soins. C'est-à-dire des lieux de soins actifs, on doit y venir pour y recevoir des soins actifs. Ce qui fait que les hospitalisations prolongées doivent être réduites, mais la question qui se pose assez grave, c'est la question des hébergements et des alternatives à l'hospitalisation complète. C'est-à-dire qu'il y ait des lieux sociaux, que la fonction d'asile soit assurée. Je crois que la fonction d'asile est une fonction noble, mais elle doit être assurée en dehors des hôpitaux. Vous voyez, il y a plein de questions par rapport à ça, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, comment l'organiser? Alors, c'est vrai qu'il faut maintenant des logiques de management, comme on dit, des logiques décisionnelles, surtout médico-administratives, peuvent poser problème. Mais elles peuvent être pas simplement le fait des directeurs, elles peuvent être aussi le fait des chefs de service ou des chefs de pôle. Et c'est pour ça, il me semble, que pour éviter de se retrouver dans des situations des fois trop compliquées, il m'avait semblé, je me le suis appliqué, je crois qu'il faut une limitation des mandats de chef de service hospitalier. Alors ça, c'est un peu tabou. Hein. Mais j'essayais de mettre ça en pratique, donc j'ai estimé que 3 mandats de 5 ans, chef de service, même service d'organisation hospitalière, c'était bien, et qu'il fallait passer la main à des plus jeunes, comme quand arrivé à un certain âge, il faut accepter alors qu'on a défilé, demandé la retraite à 60 ans, 65 ans. Quand je vois des vieux collègues qui n'arrivent pas à décrocher, je me dis, bon, moi, arrêtez, place aux jeunes quand même, quoi. Pour ça, c'est comme pour les fonctions de représentation politique, bien qu'il faut au moment où dire donc, qu'il y ait une limitation des mandats. Je regarde l'heure. Alors, sur les questions des droits des patients aussi, maintenant, il y a eu d'énormes progrès faits. Le patient est reçu maintenant avec beaucoup plus de dignité et respecté. C'est-à-dire que ses droits, il peut faire valoir ses droits. Les hospitalisations, là où c'est compliqué, en service libre, doivent se faire dans des services ouverts, pas des portes fermées. Où c'est compliqué, c'est que des fois, dans une même unité d'admission, il y a, je crois, ce qui fait problème aussi, il y a, qui me semble, une promiscuité ou des différences de pathologies qui sont des fois très, très importantes. C'est ce qui, avec le recul, quand j'étais amené à venir visiter des personnes que je connaissais qui étaient hospitalisées, donc je me disais, entre des patients, des pathologies lourdes, délirantes, hallucinatoires, dans un même service, et des personnes qui viennent parce qui vivent des dépressions d'intensité moyenne, mais qui n'ont pas de maladie psychiatrique grave, la cohabitation est difficile et problématique. Je crois qu'il faudra évoluer par rapport à ça aussi. Mais le risque, c'est d'aller vers des unités à nouveau de relégation, où on mettrait les pathologies les plus lourdes et les plus difficiles. À 95%, ou peut-être plus, l'exercice de la psychiatrie est serein. Agréable même, difficile, mais agréable. Mon métier, je l'ai terminé, pas du tout fatigué là. J'étais certes un peu difficulté personnel, physique, tout ça, mais voilà, c'est un métier qui m'a beaucoup intéressé. Voilà, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus parce que la psychiatrie, c'est une spécialité médicale qui n'est pas très choisie. Elle paraît pas noble par rapport à la cardiologie, la chirurgie et d'autres spécialités, mais je trouve que c'est une discipline qui demeure passionnante. Alors, dans ces lieux d'hospitalisation, c'est vrai que maintenant, c'est les hospitalisations libres et les hospitalisations contraintes peuvent faire problème. Il y a des différences selon les hôpitaux, dans un même hôpital, entre les services, des fois aussi. Et il y a un usage de l'isolement et de la contention qui est encore problématique. L'isolement, c'est-à-dire des malades qui peuvent être agités du fait de leur pathologie. On ne sait pas trop comment faire avec et on les place en chambre d'isolement. Qui est assez terrible, je dirais, mais qui est malheureusement nécessaire pour cette partie des pathologies qui peuvent être tout à fait difficiles, compliquées, et qui a fait que dans les problèmes posés aussi, il a été créé des unités pour malades difficiles, des UMD. Il y en a une à Sotteville. Compliqué aussi du fait des personnes, par exemple, qui sont en prison, détenues, qui ont des troubles psychiatriques, et qui sont hospitalisées par obligation, et qui se retrouvent dans des services où les portes peuvent être ouvertes, où la responsabilité des personnes qui s'en occupent est engagée. Là, c'est là qu'on parle des fois, d'évasion. Moi, c'est un terme que je récuse absolument. Il ne s'agit pas d'évasion, mais il s'agit de départs non autorisés et qui font les services de sécurité viennent vite demander des comptes et mettent en cause la façon dont les soins ont été organisés par défaut de surveillants. Vous voyez, cette conjonction de difficultés fait que l'exercice professionnel peut être tendu des fois et compliqué. Mais il faut l'assumer. Je crois que c'est, même que le statut de la folie. C'est-à-dire la folie, dans son ambiguïté sémantique, de ce à quoi elle renvoie, à la fois elle fascine, mais elle fait peur. Dans les cas les plus spectaculaires, importants, qui alimentent des faits divers, des fois des faits divers dramatiques, on voit bien comment, par exemple, on stigmatise la schizophrénie. Voilà, il y a tout un mouvement actuel qui vise à déstigmatiser ces maladies-là aussi. Il faut le poursuivre, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a des situations qui sont très difficiles, entre guillemets, voire dangereuses. Enfin, dangereuses, délicates. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de les soigner, de les traiter correctement, avec dignité aussi, mais c'est difficile. Et c'est parce que j'ai connu des situations comme ça dans l'exercice de la psychiatrie publique. Je n'ai pas eu simplement une pratique de psychothérapeute en centre médico-psychologique que je peux en parler avec connaissance et ce qui met en décalage par rapport à un certain nombre de haut-parleurs qui interviennent dans les médias en ignorant ça. Donc il y a ce point de difficulté qu'il faut accepter de traiter, voir et analyser le plus correctement possible. Voilà. Sur l'histoire de l'équipe mobile psy-précarité, c'est vrai qu'on a assisté dans les années 80-90 à l'émergence de quelque chose qui a été nouveau en France et dans nos sociétés, c'est-à-dire des phénomènes de précarisation. Avant, on parlait de misère, pauvreté, de précarisation, des gens qui allaient mal, qui se retrouvaient à la rue, des jeunes, des ados, tout ça, et qui semblaient relever de soins et de la psychiatrie. Et les services sociaux, notamment les pouvoirs publics, disaient « Mais que fait la psychiatrie ? Elle s'en occupe pas, elle les laisse tomber, internés. » Alors il y a eu, ça c'est une grande différence aussi par rapport au début de mon exercice professionnel, quand j'étais interne et jeune médecin. Il y a eu toute une époque, notamment influencée par une mauvaise pratique de la psychanalyse. On estimait que pour venir aider quelqu'un, il fallait qu'il ait une demande. S'il n'y avait pas de demande, on attendait que la demande s'élabore et mûrisse. Ce qui était tout à fait déplacé. Il y a des personnes qui vont pas bien, qui vont mal des fois, qui ne, entre guillemets, ne demandent rien ou le formulent de façon très, très indirecte. Il faut aller vers elles. C'est tout ce qui a été de l'aller vers ces personnes qui allaient mal, qui étaient dans la rue ou qui étaient dans des lieux sociaux où les travailleurs sociaux nous interpellaient en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» tout ça. Donc c'est comme ça que cette équipe mobile psy-précarité est créée à Rouen, l'unité mobile action psychiatrie-précarité, l'UMAP, qui est installée au carrefour des solidarités à Rouen, 49 rue des Augustins, qui je crois continue, malgré des problèmes, à faire du très bon travail, c'est-à-dire qu'il y a le souci que quand il y a une personne en difficulté sociale dans un foyer, dans un lieu d'hébergement ou un signalement dans la rue, d'aller vers elle et de répondre dans des délais courts en essayant de trouver avec les travailleurs sociaux la meilleure réponse possible. Ce qui ne signifie pas que la folie, entre guillemets, dans la rue va disparaître. Mais ce qui est interdit, c'est de laisser la folie, entre guillemets. Il y a des gens qui, vous voyez, qui ont des comportements quand même très très bizarres. Des fois, on demande, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ce qui est interdit, c'est de... Enfin, point de vue qui est interdit, c'est de laisser quelqu'un qui a besoin de soins, de le laisser sans soins. Donc, il y a une présence en pointillé au moins, dire que s'il y a vraiment besoin, on va vers elle, on s'en occupe et on propose des soins. Alors, c'est d'abord une relation d'aide, de contact, des modalités d'aide psychothérapique et éventuellement de traitement médicamenteux s'il y a besoin. Donc c'est tout ça qui s'est mis en place à Rouen et qui s'est développé maintenant au niveau d'un réseau régional qui existait en Haute-Normandie, puis depuis que la région Normandie existe, maintenant qui existe dans, avec ce souci-là dans des territoires de santé, de l'organiser au niveau régional pour toute la Normandie. Alors c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est quand même l'honneur du service public d'avoir proposé ça. Je regarde l'heure. Donc finalement, crise sociale, crise démocratique à laquelle on peut apporter des réponses politiques différentes, c'est certain, mais moi je suis gêné, je reprendrai un peu quand même ce qui des fois a été appelé par certains auteurs la mélancolie démocratique. Certains même parlaient de société dépressive. Il est quand même pas normal que le registre de la plainte soit aussi étendu pour un pays comme la France, un pays démocratique, qui est le, je crois que cinquième entre les pays plus développés, qui attire énormément de migrants, qui sont très heureux de trouver le système de soins qu'ils trouvent, qui peuvent bénéficier de soins entre guillemets gratuits, c'est-à-dire en fait payés par la collectivité. Que ce système existe, c'est absolument exceptionnel. Il ne faut pas l'oublier. Je connais un peu les États-Unis. Le système des États-Unis de soins, il est effrayant financièrement. Effrayant. En dehors des phénomènes de crise, ça coûte très très cher. Je connais aussi bien le Mali, où je suis allé de temps en temps, où j'ai des amis. C'est veut dire, quoi, ils ont peut-être, quoi, je sais pas, au Mali, ils ont peut-être trois psychiatres. Voilà, c'est pour ça que le SAMU international Xavier Manuelli fait un boulot important aussi là-dessus. Par Jean-Michel Coq, avec qui j'ai travaillé, que j'enseignais un peu à l'université. C'est vrai que Xavier Manuelli, le SAMU social à Paris, le SAMU social international, a le souci de proposer à d'autres pays des formes d'intervention, de présence. Alors, il ne s'agit pas de psychiatriser ou de psychologiser. Ça, c'est une accusation dont on était victime pendant un certain temps. Vous allez psychiatriser la misère sociale. Non. C'est venir en aide à des personnes qui en ont besoin sans s'illusionner qu'on va devenir sociatre. Il ne s'agit pas de ça. Alors, j'aurais dû rien aussi à dire sur la définition des maladies mentales et différents troubles psychiatriques, troubles psychiques, difficultés psychologiques, souffrance psychosociale. Maintenant, tous les phénomènes de harcèlement qui existent au travail aussi, de souffrance au travail. Des mécanismes peut-être de perversion qui existent dans les modes de relation à l'autre. On semble assister à ce développement-là, ce qui des formes de relation à l'autre qui interrogent sur ces questions-là. Alors, perversion, il y a une différence encore, perversion, perversité, la question des délinquants sexuels aussi. Ça pourrait rebondir sur la question aussi de l'expertise, de la responsabilité de quelqu'un qui a fait un délit ou un crime. Voilà, toutes ces questions-là sont ouvertes. Et moi, j'essayais de toujours considérer même le plus fou de fou, délirant, compliqué, comme, entre guillemets, responsable, engagé dans une responsabilité subjective. Ça veut surtout pas dire qu'il ne faut pas soigner les malades, mais ça veut dire quand même que la responsabilité subjective, voire sociale, doit être engagé. Et là, c'est le vaste problème des est-ce qu'il doit être en prison, à l'hôpital et tout ça. Mais quelqu'un, oui, annexe, quelqu'un qui est détenu et qu'on pense qu'il faut qu'il soit soigné, et il y a une ordonnance qui est prise pour l'hospitaliser. Il est hospitalisé en milieu psychiatrique, et quand il est hospitalisé, la différence du CHU par exemple, il n'y a pas de policier pour le surveiller ou être à côté de lui. Donc c'est-à-dire qu'on oblige le personnel soignant aussi à assurer des missions de sécurité. Vous voyez le dilemme et les complications qui se posent. Voilà, je regarde l'heure. J'ai eu un petit peu peur. Je me dis, oh là là, il faut que je prépare un exploit de 3 quarts d'heure. J'étais venu plutôt, je venais avec le livre comme ça. Puis non, il fallait faire une intervention. Je l'ai préparé. J'ai ouvert des questions, des chantiers. Voilà, j'espère que vous pourrez rebondir par rapport à ça. Et voilà.
Bien, merci beaucoup. Je vous remercie pour avoir partagé. Puis on va continuer avec nous votre expérience et puis surtout votre analyse et puis votre point de vue à la fois très humain, lucide, passionné aussi, qui ouvre quand même, on pourrait encore faire ça. C'est rassurant à notre époque où on sombre un petit peu dans, la mélancolie ou le pessimisme en tout cas. Et donc, avec ces questions sur la psy, les psys, alors soignants, malades, on ne sait pas trop. Et là, je vais donner, tout le monde est... du coup concernés, parce qu'on partage tous les mêmes processus, effectivement. Et je vais donner la parole à d'autres psys. Donc, à commencer par Yolande Govindama. Donc je pense qu'en parlant un peu fort...
Oui, non, mais ça va aller.
Oui, parce que venez un prochain...
Non, ça va.
Non, vous l'avez lu, avec tel... je suis impressionné par le nombre de pages cornées.
On m'a demandé de lire, on m'a demandé d'animer, je lis, pour au moins... Alors, je vous remercie vraiment par rapport à cet exposé, ce livre, qui finalement, dans un premier temps, qui m'a un peu déconcertée. C'est-à-dire, quasiment les deux tiers étaient vraiment votre parcours de vie, personnel, très personnel, engageant vraiment aussi vos proches dans ce que vous livrez. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est à la page 125, là, on trouve la présentation, c'est-à-dire ce que vous avez fait, et tout ce dont vous avez décrit. Et j'ai essayé d'analyser, de me dire, peut-être qu'après vous me direz ce que j'en pense là. Et je me suis dit, c'est la première fois un psychiatre qui finalement nous montre dans son parcours comme ça, un peu livré en tout ça, c'est que finalement, il combine l'être et la fonction, c'est-à-dire ce qui est rare. Mais il a fallu un peu de recul pour que je décode, c'est-à-dire la rencontre humaine, avant tout, et pas mettre la fonction en avant, le supposé savoir, si on peut dire. Et finalement, dans cette relation de fonction, et je me suis dit, c'est bien ce qui est notre problème société contemporaine, c'est-à-dire qu'on existe par l'avoir, ce que vous décrivez, l'avoir, et la fonction avant l'être. Bon. Et finalement, c'est doublement intéressant dans la mesure où vous retracez votre exil, je rappelle ça l'exil breton, vers Rouen, la Normandie qui vous accueille à bras ouverts, où vous études, toutes vos études, en Normandie. Et je me suis dit, ça me fait penser, j'associe un peu comme l'exode rural, que tout l'exode rural en France, dont on ne parle pas, l'exil interne, qui finalement... crée aussi une différence culturelle avec un écart culturel qui a concerné énormément beaucoup de Français de cette occasion, d'une certaine manière. Mais vous ne l'avez pas renié parce que finalement, cet aller-retour en permanence vers vos origines vous servait vraiment d'appui de quelque chose qui est pour savoir d'où vous allez en permanence. Et ça, c'est vraiment très... très, très singulier, parce que justement dans cet exode rural, avec parfois cette rupture, c'était plutôt l'inverse dans les grandes mégapoles, de s'identifier au modèle sociétal offert pour à la limite acquérir une situation autre, et renier, pas renier, mais un peu déni de ses origines, ce dont décrit bien Françoise Hürstel, je ne sais pas si vous avez lu son livre, La déchirure paternelle, dans cette difficulté d'identification et par rapport à cette... Et je trouve que là, c'est quelque chose d'intéressant. Tout comme vos motivations de psy, vous nous livrez. On sait que tout le monde sait que ce n'est pas par hasard qu'on devient psy. Il y a un grain, peut-être parfois de gros grains même. Quand on devient psy, c'est quand même pas... bon. Mais vous livrez ça, vous dites vos motivations. Et puis vous engagez dans tout ça. Et ça, je trouvais que c'était quand même quelque chose de vraiment de très intéressant par rapport à ce qui amène le bouquin. Et dans la présentation, c'est là où la présentation de votre parcours, après en psychiatrie, quand vous démarrez à Rouen, et vous bousculez bien évidemment, vous bousculez les mentalités, puisque vous reprenez un service, vous dites le personnel n'est pas habitué à faire comme ça, mais il faudra qu'il s'y fasse. Un infirmier résiste, comment le muter ? Ah oui, c'est vrai que quand on bouscule les mentalités, c'est pas sûr qu'un projet va aboutir. Et bon, vous le faites. Et en même temps, vous dites à ce moment-là, vous êtes inspiré de certaines expériences. C'est-à-dire en France, vous citez un peu le Vinatier, le Lion. Or, je me dis, ben, finalement, le Vinatier, c'est vrai que c'est toujours des expériences parcellaires en France, de ce qui a eu lieu de la psychiatrie, par des personnes. C'est l'héritage de Jean Réversy. Jean Réversy, médecin résistant, mais irrésistant populaire, dont effectivement écrivain prix Renaudot, et qui finalement a vraiment s'élancé dans tout ça pour bousculer dans les années 30, ce qui n'est pas rien, et qui va amener, et puis son fils, Jean-François Réversy, avec qui j'ai fondé une association, ce qui explique que peut-être que je connais, que je connais un peu les choses. Non, ici, il a fondé la CEPSI. La CEPSI, 1978, pour les structures intermédiaires, pour ouvrir la psychiatrie, les lieux de vie, avec les psychanalystes, pour bousculer un peu les psychanalystes. Donc il y a eu des expériences comme ça, un peu quand même d'ouverture. Non, la Réunion, on a fait un état des lieux de santé mentale dans le monde en 1988. Ça, c'était de réinterroger le diagnostic, comme vous avez dit, DSM, CIM, qui fermait. Et là, c'est là où je me dis peut-être la question que j'ai envie de vous poser, puisque vous retracez une expérience originale, engageante, et vraiment à différents niveaux, et que finalement, parfois, vous accueillez les gens sans mettre votre théorie en avant, puisque vous aviez fait une démarche psychanalytique, mais vous êtes ouvert à toute forme d'épistémologie pour dire, à partir du moment que c'est l'intérêt du patient qui prédomine, vous ne mettez pas quelque chose de très narcissique en disant, ça c'est mon épistémologie, je ne veux pas d'autre chose. Et ça, je crois que, comme vous faites beaucoup référence à Lacan, c'est qu'en réalité, Lacan disait que c'est la clinique qui interroge la théorie et pas l'inverse. Et donc, effectivement, même si le lacanoïde, je ne l'épouse pas, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même, vous avez fait ça. C'est-à-dire, psychiatrie, la psychanalyse sans divan, précarité sociale, vous y allez dans cette perspective de montrer qu'il y a, on ne peut pas psychiatriser pour psychiatriser, psychopathologiser. Et puis vous touchez la folie et la culture, parce que la représentation de la folie, c'est ce qui fait l'aller-retour en permanence. C'est-à-dire la folie démon, possession, dans le côté religieux, qui va évoluer après, à ce moment-là, avec la science, les siècles de lumière. Mais on revient au rétrograde et vous reposez toutes ces questions. Est-ce que c'est en termes économiques ? Ces questions se posent, ou est-ce qu'il n'y a pas les deux ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait résistance pour qu'il n'y ait pas une politique de santé mentale au niveau national ? Parce que dans 1988, l'OMS et l'INSERM nous ont suivis. 120 communautés, ils étaient ouverts à reposer ces questions-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas une politique nationale au niveau de la santé mentale ? Vous voyez, toutes les expériences restent parcellaires avec des personnes et pas forcément une logique qui pourrait être nationale. Si vous voulez. Là, à Lille, vous savez l'expérience de Jean-Luc Rolland actuellement.
Oui, très bien.
Très bien. Mais ça sera Jean-Luc partant, vous, voilà. C'est un peu, des questions que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui fait qu'on reste sur des expériences parcellaires avec des personnes, qui n'est pas une politique nationale de santé mentale, on fait des allers-retours avec l'économie ou pas, enfin, mais est-ce qu'il n'y a que ça au jour d'aujourd'hui, parce qu'on y revient avec les médicaments, l'enfermement, les électrochocs, il faut savoir ça quand même, qu'on y revient même, enfin, moi à Paris, je travaille plus à Paris, on revient quand même avec des diagnostics durs, des l'enfermement, oui. Des choses.
Oui, en fait, oui, je vous remercie. C'est vrai que se livrer comme ça au risque de l'impudeur, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que je me disais, est-ce que. Voilà, mais si. Non, Arthur Tam. Voilà, il faut voilà, livrer pourquoi je l'intérêt pour la psy. Je ne vais pas dire que j'ai choisi la psy ou j'ai choisi la psychanalyse parce que je voulais comprendre la folie, puis peut-être parce que j'avais une mère dépressive. Je ne vais pas dire ça comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est vrai, interroger enfant, les formes de mal-être, tout ça, puis les migrations, mon intérêt aussi pour la psychiatrie transculturelle, et non pas l'ethnopsie.
Il
y a encore autre chose, ouais, les débats qui ont lieu là-dessus. Je crois que c'est tout cette imbrication surprise qui peut faire la richesse de l'exercice. Bien qu'on peut, la fois, on a la chance de faire un métier ou d'exercer une fonction, même associative, hein, où on arrive à conjuguer finalement des questions personnelles et puis des intérêts professionnels. Donc je crois que c'est vraiment une chance de pouvoir le faire. Et tout ça, ça se mélange en n'étant pas dupe de ces illusions-là, en étant aussi, c'est vrai, inquiet de cette tendance, j'espère qu'elle n'est pas trop lourde, à l'objectivation de symptômes, au traitement des symptômes, à une réponse qui serait trop médicamenteuse. Là, il faudrait faire l'historique de comment le marché des antidépresseurs est devenu absolument considérable. Ça s'est fait à partir de la mise sur le marché de molécules qui venaient de l'industrie pharmaceutique américaine et qui a fait que, effectivement, ces médicaments-là sont tout à fait bien tolérés, sont intéressants, mais arrosent un petit peu tout sans faire trop de distinctions sur ce qu'ils font d'une clinique anxio-dépressive. Inquiet aussi par peut-être un recul de ce qui est la réflexion psychopathologique, c'est-à-dire de. C'est quand même, je veux dire, si la psychiatrie devait résumer simplement quelqu'un qui va mal, on fait une classification, on trouve 3-4 symptômes, puis on répond, par une grille et des médicaments simplement, ce serait extrêmement triste. C'est un risque possible. Mais en même temps, c'est la question du changement. Les résistances, elles étaient autrefois aussi importantes que maintenant. Je veux dire, moi j'ai commencé à interner en psychiatrie, la psychanalyse était moquée. Voilà, il fallait faire des vieux pontes asilaires qui prenaient ça de haut et dérision. Donc c'est vrai, il y a eu l'importance de Lacan, il y a les dérives de pratiques lacaniennes aussi. Bon, c'est une.
De partout.
Quoi ?
De partout.
Oui, même temps, bon, tout ça, c'est dans la vie, il faut réfléchir par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui peut être moteur de changement, d'initiative, encore ici et là? Je considère que chacun, à la place où il est, peut essayer de faire bouger un petit peu le monde, quand même, quoi. Sans forcément partir dans des expressions de violence et de terrorisme, comme j'en entends, et comme je ne vais pas sur les réseaux sociaux, mais comme j'entends par... Je vais oser le dire, entre guillemets, certains gilets jaunes. Moi, je trouve ça effrayant. Je veux dire, où on est, que l'expression démocratique est l'expression démocratique de la conflictualité humaine. La conflictualité humaine, elle est... Il y en aura toujours, elle est indépassable, elle fait partie de la vie. Alors, c'est comment, en fait, se débrouiller avec ça et trouver des modes de traitement social, démocratique, d'échange, de dialogue, qui peut permettre d'avancer, avancer quand même si la question du progrès se pose. Alors, on peut essayer, c'est ce qui fait que à Rouen, sur l'histoire des équipes mobiles de précarité, ça a été compliqué, difficile, mais on y est allé, c'est avancé, il a fallu l'évaluer. Moi, je suis pour un principe... Je continue à défendre le principe d'une évaluation critique de ce qui est fait, mais une évaluation critique qui ne soit pas trop stupide, quoi. Je veux dire, si c'est simplement pour tout aplatir et puis rendre homogénéiser tout, c'est vrai que ça peut être complètement raté. Mais évaluer quand même, effectivement, qu'est-ce qui est fait, comment ça marche, ce que ça coûte et tout ça. Bon, ça a été fait pour l'équipe mobile psy précarité. C'est ce qui fait que ça a été reconnu. C'est ce qui, ça a été défendu localement, régionalement, nationalement. Et c'est aussi tout un mouvement, c'est vrai qu'il existait à Lyon, il existait à Lille aussi, il existait à Paris, Xavier Emmanuelli. Et c'est ça qui a permis de fonder une circulaire sur les équipes mobiles psy précarité. Et maintenant, en France, il y en a à peu près 130-140. Quoi. Vous voyez, donc c'est possible. Moi, je ne suis pas du tout dans un discours de plainte ou pessimiste. Un discours d'exigence, d'engagement, de débat démocratique et de respect aussi. De respect des uns et des autres à la place où ils sont, mais de non-concession sur le non-recours à la violence. Parce que la violence, on ne sait pas où ça conduit. Et, enfin, aussi, on sait trop où ça peut conduire. L'histoire nous l'a appris. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et puis, les situations psychiatriques les plus compliquées, les plus violentes aussi, je veux dire, il faut pas être dupe. Moi, j'ai la situation la plus compliquée qui était pour moi en 35 ans d'exercice public, c'est quand quelqu'un qui était en prison, la prison ne voulait pas, c'était un malade, on l'amène à l'hôpital, il fait des allers-retours, et c'est un costaud baraqué malabar, c'est une trouble de la personnalité compliquée, complexe. On ne sait pas trop quoi faire, il avait cassé la figure des infirmières, il a fallu le mettre en isolement, on cherchait un lieu pour l'accueillir quand même, où la contention soit la plus correcte possible. Aucune réponse des autorités sanitaires et publiques. Moi, j'étais confronté à ça. Ça a duré 2 mois et demi. J'étais en isolement. Ce qu'il me disait avec le sourire, vraiment foutant de moi, ce qu'il voulait absolument, éclater la tête d'infirmière par terre et voir le sang couler, gicler de leur cervelle. Il y a un monstre. Donc, il faut savoir que le mal existe, la monstruosité existe, la négativité existe. Et il faut penser avec ça. Il faut penser malgré ça. Il faut pas céder par rapport à ça. Il faut être vigilant. C'est pour ça qu'il faut être vigilant dans l'exercice de la construction des liens, dans l'exercice démocratique, dans les échanges, tout ça, mais en essayant de tenir les deux bouts, c'est ce que l'exercice dans la psychiatrie publique m'a permis de faire.
Jean-Michel Coq, tu veux qu'on va changer de place?
Oui, je parle assez fort.
Je sais, mais bon. Et puis ensuite, nous prendrons les questions de la
oui,
salle.
Oui.
Voilà, sans micro, mais bon, il faudra pas.
Alors Alain, grand merci à toi pour. Je trouve que tu as dressé à travers ton propre parcours personnel, au fond, un tableau de la psychiatrie, moi, que je trouve intéressant, d'abord qui est un petit peu à distance. Hein, tu nous as dit que tu avais quitté tes fonctions il y a 5 ans. 5 ans, ça permet déjà un petit peu de voir les choses. Aussi, j'ai trouvé que tu n'étais pas un psychiatre à la retraite déprimé.
Non, du tout.
Et au-delà de ça, moi, il y a un certain nombre de mots que j'ai retenus dans ce que tu as présenté. Entre autres, cette psychiatrie qui sera tout le temps en crise. Ça me semble important parce qu'on a tendance à l'heure actuelle à être sans doute un peu aveuglé par les difficultés que tu as évoquées, une difficulté de moyens. Tu as parlé d'une situation aiguë et qui n'est peut-être pas encore dépassée, loin s'en faut. Mais aussi qu'il faudrait faire avec cette crise, on va dire permanente, qui existait sans doute déjà, on va dire, au début du 19e siècle, fin du 18e siècle. Hein, moi, je pense à Pinel et même peut-être un petit peu avant, à partir du moment où, la folie va être du domaine de la médecine, hein, où je pense que déjà, là, on est dans des choses complexes et qui ne peuvent que faire crise et tensions. Et je pense que c'est important de le rappeler pour ne pas sombrer, effectivement, dans... on est à l'heure actuelle dans, vraiment au fond du trou en psychiatrie et on peut pas avancer. On ne pourrait être que c'était tellement mieux avant. Alors, j'apprécie que tu ailles pas trop dans ce sens-là. Et que tu nous donnes aussi toutes les avancées qu'il y a eu, alors qui ont été très marquées avec la psychiatrie de secteur. Et je repensais à ce que disait aussi ma collègue Yolande Govindama, et que je rejoins tout à fait sur ces expériences parcellaires. Mais là où il y a eu un moment où il y a eu quelque chose peut-être d'unificateur, c'est la création de la psychiatrie de secteur. Et qui là, tu as rappelé aussi tout ce qu'elle avait amené. Tout ce qu'elle avait amené, et que même aujourd'hui, si parfois on peut sentir comme soignant, on va dire, certaines régressions, entre guillemets, qui sont à réfléchir, mais il y a eu aussi des progrès incontestables et qui restent présents, à mon avis. Enfin, je sais pas, tu pourras... Alors, un autre mot aussi que tu as prononcé plusieurs fois, c'est service public. Que tu disais un psychiatre, chef de service, de pôle, du service public, qui a quand même... derrière cette notion de service public, quelque chose qui reste important parce qu'on offre justement aux gens, et où qu'ils soient, tu rappelais aussi les disparités entre certains arrondissements de Paris et le département de l'Eure, et où on pourrait penser que ce service public, il est pas le même, et que là, il y a sans doute quelque chose à défendre, et tu le défends aussi tranquillement, j'apprécie tout à fait ça aussi, c'est-à-dire ce n'est pas dans une défense polémique, mais dans une défense qui va dans le sens de service public, c'est-à-dire d'apporter à tout citoyen ce qu'il peut en attendre dans ses soins, on va dire, psychiatriques, dans ses soins psychiques, dans tous les sens du terme. Alors, après, tu as parlé de cette expérience, bien évidemment, de l'équipe mobile, qui, je pense, a été un moment important, et je me tourne aussi vers Olivier, peut-être d'autres dans cette salle, de ce que vous avez vécu à ce moment-là, aussi dans ce qu'offre une création. Tu en as peut-être parlé dans ton livre, mais monter une structure, au-delà des résistances qu'on rencontre, c'est aussi un moment passionnant, me semble-t-il. Pour l'avoir vécu dans d'autres types de structures, en psychiatrie, je trouve que c'est un moment qui est intéressant aussi parce qu'il évite aussi justement parfois de se déprimer. On dit on peut faire des choses. Malheureusement, elles ne sont pas toujours justement généralisées, puis peut-être qu'il ne faut pas qu'elles le soient généralisées, mais étendues parfois, ça ce serait sans doute intéressant. Et elles n'y sont pas toujours. Mais on sent que cette expérience de l'UMAP aussi, quand tu dis aller vers, ça aussi c'est quand même un point, on l'a connu pour beaucoup d'entre nous, où effectivement il y avait une espèce de règle, on n'y va pas parce qu'il n'y a pas de demande. Ça, et c'est vrai que c'est des choses qui pouvaient nous faire un peu bondir. Et là il y a quelque chose qui, je pense, a évolué aussi. Et qu'on ne peut plus être pour un certain type, on va dire, de personne dans cette posture-là. Je pense que là aussi, je pense à nos étudiants, enfin, c'est quelque chose d'important aussi dans cette évolution-là, qui demain seront les professionnels, qu'à partir du moment où on est un peu dans du dogmatisme, eh bien, ça ne fonctionne pas bien. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très antidogmatique, au bon sens du terme, dans tout ce que tu nous as exposé, tu nous as pas fait part de, on va dire, enfin, tu l'as évoqué à certaines de tes références théoriques, on a parlé de Lacan, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, j'imagine, pour rester au plus près du terrain, et moi je trouve que c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de ce que tu nous as présenté. Voilà, j'ai des questions, bien évidemment, je vais quand même t'en poser. Alors, peut-être pas des faciles, désolé, mais... mais par rapport à ce que tu as abordé autour de la psychiatrie, on a quand même envie de te demander comment tu vois la suite, comment tu vois ça aujourd'hui. Là, on est en 2019, tu as évoqué... ce qui s'était passé entre autres au Rouvray, cette grève de la faim, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes dans un certain nombre de centres hospitaliers qui ont fait parfois, qui sont passés dans la presse, enfin, des soignants qui sont vraiment, je crois que c'est encore il y a deux jours où il y avait à République. Hein, bon, enfin. Mais à la fois, on a l'impression aussi, et tu l'as rappelé, qu'il y avait encore quelque chose qui restait de très vivant et qui continuait de fonctionner. Comment tu vois un peu la suite de ça, hein? Quelle perspective tu penses qu'il peut y avoir? Je suis désolé de te poser une question difficile, mais bon, c'est, à partir de ton exposé, c'est un peu la question qu'on a envie de te poser.
Hein? Oui, écoute, Jean-Michel, on a travaillé ensemble à l'université, je te connais bien. La suite, je veux pas surtout être dans le discours du style « c'était mieux avant, l'époque d'avant, tout ça ». C'est pas vrai. On est maintenant, c'est bien maintenant. Essayons de, sur ce qui va pas, de proposer des solutions et ouvrir des perspectives. Alors comment ça peut se passer? Ça va être compliqué. Je crois que c'est comme au niveau social et politique. Au niveau de la psychiatrie, il y a des problèmes d'insuffisance de moyens, c'est clair. Problème de répartition, d'abord. Il y a des endroits où ça marche très bien. Mais on ne parle encore en France que de ce qui ne va pas. Alors qu'il y a des endroits où ça marche très bien, où c'est très bien. Ça, c'est aussi un problème de la France. C'est quand même frappant par rapport à d'autres pays que je connais que cette façon dont les médias rendent compte immédiatement de ce qui fait problème. C'est un vrai problème. Les médias sont mis en cause, interrogés, à juste raison. On parle trop de ce qui ne va pas. La perspective, la question des moyens et puis du budget accordé à la santé, comment est-ce qu'on va faire? Je veux dire, le déficit de la France était à 2,8, il va passer à 3,2 l'année prochaine. Tout ça, les contraintes, c'est compliqué, il faut ouvrir. Comment ça peut se faire? Allouer des moyens supplémentaires, les répartir, sans doute. Mais il faut aussi imaginer une forme d'organisation de soins, en faisant le pari de l'intelligence des acteurs du terrain et en ne pas faisant tomber des décisions médico-administratives qui viennent d'en haut et qui ne sont pas adaptées. Ça, c'est un vrai problème aussi de la façon dont on exerce des responsabilités et le pouvoir. Ça, il y a quelque chose. Donc c'est à inventer. Mais effectivement, je n'avais pas remarqué la présence de jeunes étudiants Mingo. Et dernièrement, j'ai lancé un message d'espoir aussi. Je n'ai pas eu le temps de parler du festival Arrêt des Chirures. Festival Arrêt des Chirures, c'est un festival qui a eu un rond tous les deux ans pendant une semaine où il y a des productions théâtrales, des expositions de graphiques aussi, tout ça qui ont lieu dans les principaux lieux de la ville. Il a maintenant acquis une petite notoriété en France. Il a un soutien relatif, mais quand même certain. Ça a démarré dans les années... j'étais chef de service. C'était 88-89. J'avais accepté, ça m'intéressait, la responsabilité d'un centre de sociothérapie à l'hôpital. Et en sociothérapie, c'est tout ce qui concerne les médiations thérapeutiques, tout ça qui peut servir aussi de soutien et d'aide à des personnes hospitalisées. Et dans ce centre de sociothérapie, je travaillais avec deux infirmiers très motivés. Et c'est vrai qu'on se plaignait, mais comment que c'est, ça va pas, tout ça, il faudrait faire autre chose. Et on a imaginé de sortir de l'hôpital. En essayant de faire se croiser les questions et les pratiques d'artistes connus. Antonin Artaud, par exemple, a été hospitalisé au Rouvray pendant 6 mois avant-guerre. Aloïse, qui était une personne qui a été internée pendant 40 ans dans un hôpital en Suisse, à Céry, elle faisait dessiner des gribouillis qui étaient jetés à la poubelle. Et c'est donc du Buffet qui, entre autres, avec quelques autres, qui a considéré que ça avait une certaine valeur. Donc ces questions de l'art et de la folie, c'est un vaste débat. Mais on s'est dit, les deux infirmiers, moi j'ai dit, on va arrêter de se plaindre, on va essayer de trouver par rapport à ça des réponses en dehors de l'hôpital. on allait marrer à deux infirmiers ou un médecin responsable du lieu sans aucun budget. Et on s'est débrouillé. Et voilà, cette année, je pense qu'il va y avoir le 17e festival. C'est pour vous dire, à vous, plus jeunes, qui êtes engagés dans différentes perspectives professionnelles, allez-y. Allez-y. Vous n'ayez pas peur de bousculer éventuellement quelques inerties, parce que de toute façon, la machine administrative, comme elle fonctionne, elle n'est pas animée par des mauvais bougres. Ils peuvent être tout à fait sympas, tout ça, mais je crois qu'ils sont enfermés. C'est comme je crois qu'on peut être en responsabilité politique d'un lieu au point et ne plus très bien se rendre compte de ce qui se passe dehors. Je crois que ce n'est pas la mauvaise volonté. Donc ça, il faut réussir à trouver la façon d'enclencher des choses et de faire bouger. Voilà comment je vois la suite. Elle va être compliquée, mais c'est vrai que c'est une crise plutôt aiguë maintenant, surtout qui a conduit à des moyens. Mais la majorité de l'exercice en psychiatrie, quand même, ça va plutôt bien. Alors c'est vrai de dire ça, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont cachés dans la grève ouvrée, ils vont dire que ça ne va pas du tout. Il y a des problèmes, c'est vrai. On demandait 50 postes, on a accordé 30. Il y a des insuffisances criantes d'organisation, de personnel, tout ça. C'est vrai que le personnel est en souffrance, souvent, a le sentiment qu'une perte de sens du travail. Mais il faut le retrouver, il faut forcer un peu les portes et créer les instances pour faire bouger les choses de façon non violente.